Bienvenue au balado, le balado où on parle de nos ados, ces petits trésors d'êtres humains en pleine quête d'identité qui tentent, avec les moyens du bord, de faire leur place dans le monde. Pour cette troisième saison, les étudiants et étudiantes de troisième année du baccalauréat en enseignement de l'éducation physique et à la santé de l'Université de Montréal s'emparent du micro afin de vous transporter dans le monde des ados. En leur compagnie, vous, les nombreux auditeurs et auditrices du balado, en apprendrez davantage sur les enjeux actuels et à venir qui touchent nos adolescents. Alors, attachez votre calotte cielée avec de la broche, car ce ne sont pas les sujets d'intérêt qui manquent cette saison.
Bonjour tout le monde, bienvenue à notre balado sur les violences sexuelles et leurs impacts chez les adolescents dans le sport. Mon équipe, composée de Audrey Gervais,
allô,
Léa McIntyre,
bonjour,
Héloïse Durie,
bonjour,
et moi-même, Rosalie Turgeon. Nous allons vous parler de ce sujet qui est assez sensible, mais qu'on pense qu'il est important d'en parler parce que ça nous permet de démystifier certaines croyances et parce que c'est un sujet qui est très d'actualité, puis on pense que d'en parler va faire partie de la solution. On parle beaucoup de violences sexuelles, de harcèlement, d'agression, et ça peut être difficile de se retrouver là-dedans. Donc, on va commencer par certaines définitions pour vous aider à mieux comprendre le sujet, puis qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Donc, d'abord, un abus sexuel, ça regroupe tous ces termes-là. Que ce soit des invitations déplacées, des attouchements, ou même une tentative de viol, on classe tout ça dans la grande catégorie d'abus sexuels. Il y a un abus dans toute situation où il y a une action qui est posée sans consentement. Ça nous amène à découvrir un peu c'est quoi le consentement. Donc, il y a la FECUM, qui est la Fédération des associations étudiantes de l'Université de Montréal, qui a lancé une campagne qui s'appelle « Sans oui, c'est non ». Donc, du moment où il n'y a pas de consentement, c'est un abus. C'est un peu sur ça qu'on s'est basé pour définir les abus, en fait. Le consentement, c'est en fait de donner son approbation à quelqu'un. De donner son approbation à quelque chose. Le consentement, c'est important qu'il soit libre et éclairé. Ça veut dire qu'on doit savoir dans quoi on s'embarque, qu'on doit savoir les conséquences, ou du moins avoir une idée des conséquences, puis qu'on ne soit pas sous l'influence de pairs, de pression quelconque ou de drogue affectant le jugement. Le simple fait de ne pas s'opposer ne constitue pas un consentement valide. Ça, c'est important à retenir, parce qu'on ne peut pas se défendre en disant, genre, la personne ne m'a pas dit qu'elle n'était pas d'accord, donc je ne savais pas. S'il n'y a pas de consentement affirmatif avec un oui, par exemple, le consentement n'est pas bon. Il est aussi important de noter qu'un abus n'est pas nécessairement forcé ou violent. Ça peut être fait avec douceur, avec affection, avec manipulation. On va en parler un petit peu plus tard. On entend beaucoup parler dernièrement de vagues de dénonciation. En fait, depuis plusieurs années, le mouvement MeToo gagne en popularité. Donc ça, c'est un mouvement qui encourage les victimes d'abus sexuels à dénoncer leur abuseur. Donc, on a vu aussi une situation avec Hockey Canada, dont on va parler plus tard aussi. Donc, dans les médias, on entend beaucoup parler d'abus sexuels, d'agressions et tout ça. Donc, c'est un peu pour ça qu'on voulait parler de ce sujet-là. Puis on s'est aussi posé la question à savoir s'il y avait vraiment un impact sur les jeunes athlètes, parce que dans le sport, il y a beaucoup d'abus. Le milieu sportif est souvent peint comme un milieu si sain et sécuritaire, mais pourtant, ça place les jeunes dans une situation très vulnérable qui peut être très dangereuse au niveau des abus sexuels.
Le documentaire « Athlete A », disponible sur Netflix, raconte l'histoire des gymnastes sur l'équipe nationale américaine de gymnastique qui ont vécu des abus sexuels au courant de leur parcours. C'est d'ailleurs ce documentaire-là qui nous a amené à une réflexion et nous a amené à élaborer sur ce sujet. Dans le documentaire, on suit le parcours de jeunes gymnastes américaines qui subissent des violences sexuelles de la part du docteur Larry Nassar. Le docteur Larry Nassar a été à la barre de l'équipe américaine pendant plus de 29 ans. Donc, il a fait énormément de victimes. Lorsque l'équipe américaine était centralisée pour la sélection de l'équipe nationale, ça se passait dans une ferme au Texas. Et les entraîneurs étaient très, très, très exigeants envers les athlètes. Donc, pour eux, la seule personne de confiance et qui était gentille, c'était le docteur. Suite à quelques actions de sa part, il y a plusieurs jeunes qui en ont discuté entre eux, mais ils vivaient tous la même chose. Donc, pour eux, c'était normal de vivre ça. Il y a aussi l'exemple d'une jeune gymnaste qui a été voir le docteur Larry Nassar à sa clinique privée et qui se faisait traiter pour des problèmes de dos et a subi des attouchements de la part de Larry Nassar, même si sa mère était dans la salle avec elle, puisqu'il se plaçait en conséquence à ce que le parent ne voyait pas. Nous avons tous regardé le documentaire, donc ça a été quoi vos réactions?
Moi j'ai été surprise d'une des gymnastes qui a eu le courage de dénoncer le docteur Larry. Puis elle a essayé de faire les démarches avec ses parents, comme qu'on a vu. Elle voulait dénoncer à la police, mais comme l'organisation n'a pas voulu qu'elle se rende jusque-là. Puis ils ont fait en sorte qu'aux sélections pour les Jeux olympiques, même si elle était qualifiée pour être dans les remplaçantes, ils l'ont juste enlevée pour pas qu'elle puisse aller aux Jeux olympiques parce qu'elle voulait dénoncer le docteur. Donc c'est quand même assez... ils ont eu un gros impact juste pour l'enlever, pour sûrement pas qu'elle puisse comme influencer d'autres filles à elle aussi dénoncer, puis comme qu'ils se rebellent contre l'organisation. Ça m'a quand même surpris. Puis sûrement qu'il y a plein d'autres cas dans plein d'autres sports qu'on sait pas justement à cause des institutions.
Ouais, moi, ce qui m'a frappé plus dans ça, c'est à quel point il n'y avait pas d'action qui était prise. T'sais, en fait, les actions, comme Audrey vient juste de mentionner, qui voulait être entrepris par les jeunes filles, étaient bloquées complètement par l'organisation. Puis les gymnastes étaient vraiment pas... Comme leur bien-être n'était pas pris en considération là-dedans, c'était vraiment plus une entreprise qui gérait ça pour l'argent, pour le succès. Mais les gymnastes, c'était comme le dernier de leurs soucis. Ça, j'ai vraiment trouvé ça dégoûtant, puis ça m'a surpris.
Donc, on a eu un bel exemple avec le documentaire sur les gymnastes, mais on a voulu pousser ça un peu plus loin, pousser la concrétisation de notre propos un peu plus loin. Donc, on est allé chercher un témoignage d'une jeune femme qui, malheureusement, ne peut pas être avec nous aujourd'hui, mais je vais pouvoir vous résumer le témoignage qu'elle nous a donné. La jeune femme qui nous a livré son témoignage était mineure au moment des faits, elle avait 17 ans. C'est une jeune Française sportive de haut niveau qui fait partie de l'équipe nationale de France de hockey. Au moment des faits, elle était au Pôle France féminin pour le hockey, donc c'est un sport-études. Et c'est un sport-études qui centralise les joueuses et elle n'était pas proche de ses parents. Donc ses parents habitaient sur Paris, c'est environ 6 heures de route. Et de ce fait, elle avait peu de personnes pour se confier. Donc les entraîneurs étaient ses personnes de référence, les professeurs à l'école aussi. C'était pas mal ça, c'est son entourage, puis ses amis sur l'équipe. Elle était gardienne de but, puis la personne à qui elle a créé un plus grand lien, c'est son entraîneur de gardien de but, parce qu'il l'a beaucoup poussée dans ses entraînements et il l'a fait beaucoup progresser au fil des années, si bien qu'elle est devenue le titulaire de l'équipe grâce à lui. Ils passent beaucoup, beaucoup de temps ensemble. Ce qu'elle nous a dit, c'est qu'ils s'envoyaient des messages, ils se voyaient, elle allait chez lui pour faire du vidéo, échanger sur des matchs, des choses comme ça, pour toujours dans le but de hockey, de faire progresser tout ça. Ça lui arrivait de se confier quelquefois à lui pour des affaires de la vie courante, comme l'école ou bien des fois des petites chicanes entre amis ou des choses comme ça. mais ça restait platonique, on va dire. Il y avait zéro allusion sexuelle ou quoi que ce soit dans leurs échanges, au début. Plus tard, le travail a payé pour elle et elle est arrivée à être sur l'équipe nationale pour un championnat du monde qu'ils ont remporté. Donc l'entraîneur était aussi sur l'équipe nationale. Ils ont remporté donc la médaille à deux. Puis c'est à partir de ce moment-là que les choses ont commencé à évoluer, la relation a commencé à évoluer entre eux. Et la relation qui était fraternelle au début, on va dire, est devenue plus ambiguë. Il y a eu des gestes pas vraiment corrects, comme des mains sur la cuisse ou des demandes d'affection. Il voulait toujours qu'elle lui donne des bisous sur la joue, des choses comme ça. Il lui envoyait des messages où il faisait des remarques qui étaient un petit peu plus à caractère sexuel qu'avant. Fait que la relation a doucement évolué. Mais pour la jeune fille, elle disait que pour elle se sentait correcte avec ça. Elle savait que c'était pour rigoler. Puis elle a pas pris ça sérieusement. Et donc, le mois passe, le championnat du monde était en janvier, fait que le mois passe, on arrive en février, puis là, l'entraîneur se fait de plus en plus insistant. Et il va même jusqu'à se présenter chez elle, mais dans le fond, il l'a forcée à l'inviter chez elle quand sa colocataire n'était pas à la maison. Donc, ils étaient juste les deux dans l'appartement. Et là, c'est là que ça a dérapé, par exemple. Il a voulu la toucher ou l'embrasser ou avoir une relation sexuelle avec elle. Puis là, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle se sentait quand même très mal parce qu'elle lui a dit non verbalement, mais elle ne l'a pas repoussé. Donc pour elle, elle n'était pas légitime de porter plainte parce qu'elle ne l'avait pas assez repoussé, en fait. Et donc ça l'a vraiment atteint de dire comme je lui ai dit non, mais je ne l'ai pas repoussé physiquement. Donc ça se passe, puis elle veut pas se confier, elle s'isole elle-même parce que elle se sent un petit peu honteuse ou des choses comme ça. Et ça lui enlève le goût de jouer au hockey, ça lui enlève le goût de se présenter aux entraînements, de parler avec ses amis parce qu'elle veut pas se faire questionner sur ce qui s'est passé, parce qu'elle veut pas que personne le sache. Elle est dans le déni, ça lui porte préjudice pour ses relations interpersonnelles avec tout le monde, avec sa famille, ses amis, ses entraîneurs, tout le monde. Et même au niveau du hockey. L'entraîneur, lui, comprend pas ce qui se passe et il devient quasiment méchant avec lui parce qu'elle le repousse. Pour finir, l'adolescente va finir par porter plainte, encouragée par ses amis à qui elle a fini par se confier, 6 mois après les faits. Et ensuite, pendant 6 ans, c'est un grand moment de discussion avec les policiers, le juge, et ça finit même au tribunal, devant un juge correctionnel. Au jour d'aujourd'hui, elle se confie à nous en disant que c'est une expérience qui lui a quand même procuré de la fierté d'avoir réussi à porter plainte contre cet homme-là et à faire en sorte qu'il ne puisse plus abuser de personne, et surtout pas qu'une autre fille soit dans sa position à l'avenir. En sachant ça, et qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Quelles sont vos réactions, vos premiers sujets de conversation qui viennent?
Ben, c'est sûr que c'est fou que ça se règle en autant de temps, là, 6 ans après les faits. C'est vraiment long pour le processus avec les policiers, les juges et tout, mais ça me fait penser au documentaire justement qu'on a écouté, qui est il y a des athlètes, justement, parce que une va dénoncer. Puis ça sort, mettons, dans les médias, comme dans Athlète A, mais ils vont être soulagés, puis eux aussi, ça va leur donner le courage de dénoncer. Donc,
ça fait juste ouvrir la porte pour que d'autres puissent dénoncer aussi s'il y a une personne qui commet plusieurs abus.
Mais c'est sûr que dénoncer, c'est pas facile parce que même elle nous a dit que c'était vraiment dur parce qu'à chaque fois, ils te font répéter mot pour mot ce qui s'est passé, quels gestes ont été posés, c'est quoi les échanges de messages, puis ça pendant 6 ans, répéter.
Exact. C'est sûr que c'est juste un événement que tu veux comme effacer, mais il faut toujours que
là, ça la force à le revivre, exactement.
Ça prouve un peu ce qu'on a lu. Lorsqu'on a fait nos recherches, que la majorité des cas d'abus sexuels dans le sport proviennent de quelqu'un qui est en autorité sur l'athlète. Donc, et dans la majorité des cas aussi, c'est un homme qui est plus âgé que l'athlète. Donc, cette situation-là vient vraiment donner un exemple de plus. Mais il ne faut pas négliger les athlètes hommes qui subissent des violences sexuelles, autant de la part des hommes que des femmes. C'est sûr qu'il y a beaucoup moins de recherches qui montrent que des femmes sont agresseurs, mais ça arrive.
Ouais, puis ça... aussi, comme dans le documentaire qu'on a écouté, puis l'histoire d'une fille de l'équipe de France, les athlètes étaient vraiment éloignés de leur famille, puis étaient comme vraiment isolés pour leur sport dans un endroit. Puis l'entraîneur, c'était vraiment le seul qui était gentil avec eux. Donc, ils allaient chercher comme une relation plus réconfortante, vu que leurs parents n'étaient pas proches d'eux.
On peut faire un lien aussi avec le témoignage de Geneviève Janson, une ancienne cycliste professionnelle québécoise, qui, quand même récemment, dans la presse, a écrit une lettre ouverte pour dénoncer puis parler de ses expériences parce qu'elle a été abusée par son entraîneur une bonne partie de sa carrière. Puis elle disait que étant jeune dans le sport, très haut niveau de compétition, en même temps d'être jeune, elle avait tellement une soif de victoire, elle voulait tellement gagner, puis son entraîneur était tellement en relation comme proche d'elle qu'elle était prête à faire n'importe quoi. Elle a perdu un peu contact avec la réalité. Puis n'importe quoi que son entraîneur disait, ben, elle allait le faire, elle allait le croire, elle ne se posait pas plus de questions que ça. Donc, je pense que c'est un enjeu qui est quand même important avec les athlètes. Souvent, en étant autant dans le sport de haut niveau, on est un peu déconnecté de la réalité, puis c'est ça qui ouvre la porte un peu à... En fait, qui nous rend vulnérables, puis qui ouvre la porte à des abus comme ça de personnes malveillantes.
Ouais. Maintenant qu'on a vu plusieurs cas, on est prête à répondre à la question « Quels sont les impacts psychologiques aux athlètes qui ont subi des abus? » Donc, avec les cas qu'on a lus puis qu'on a regardés comme documentaire, souvent... les impacts psychologiques qui vont ressortir le plus, c'est que les athlètes vont se sentir rabaissés, puis ils vont s'éloigner souvent de leurs coéquipières ou de leur famille parce qu'ils sentent un sentiment de culpabilité. Puis ils vont vraiment s'isoler. D'autres moyens qu'ils peuvent prendre pour vraiment... s'éloigner de leur sport ou s'éloigner de leur agresseur, c'est ils peuvent se blesser volontairement pour éviter avoir à pratiquer leur sport. Sinon, on peut aussi voir une diminution de leur performance ou juste de leur motivation. C'est souvent certains athlètes vont juste abandonner leur sport parce que de revenir à chaque fois pratiquer, être en contact avec leur entraîneur, ça leur rappelle ce souvenir-là qui est pas agréable. Donc, ils vont juste s'éloigner de tout ça. Sinon, ça peut causer aussi des troubles alimentaires, un stress post-traumatique de cet événement-là. T'sais, moi, en tant qu'athlète, juste au collégial, on sait que la base de tous les abus commence par de l'abus psychologique. Moi, j'en ai eu face à mes entraîneurs, puis mes impacts psychologiques ont été très grands, puis même encore à ce jour, tu sais, j'en vis. Donc, j'ose même pas imaginer, en plus avec l'abus sexuel, c'est sûr que c'est difficile de passer à travers ça, puis on sait que le processus y est long, comme... ce que Héloïse nous a présenté comme cas. Donc, revivre ça à chaque jour, c'est pas facile. Puis, dans notre vie d'adulte, si on vit à l'adolescence, on risque aussi peut-être d'avoir des difficultés avec une relation amicale ou juste amoureuse parce que les athlètes, ils vont avoir de la difficulté à faire confiance encore à un homme ou soit une femme pour
si c'est une femme qui les a agressés. Donc, ce lien-là, il est brisé. Puis...
Donc, juste une petite parenthèse, on l'a dit plus tôt, mais c'est important de se rappeler que ça, on parle beaucoup d'athlètes envers l'entraîneur ou d'entraîneur plutôt envers l'athlète. C'est pas seulement les entraîneurs, il y a beaucoup de personnel médical, personnel de soutien de l'équipe sportive, plusieurs personnes, n'importe quelle personne en fait qui est comme en situation de pouvoir ou d'autorité par rapport à l'athlète. On parle aussi beaucoup d'athlètes au féminin, mais ça touche autant les garçons, on va y revenir un petit peu plus tard. Et ça peut aussi arriver en éducation physique, c'est pas seulement dans les sports d'élite. Donc Audrey va continuer son explication.
Oui, comme au Royaume-Uni, il y a une étude qui a été faite auprès des élèves qui ont subi des abus sexuels. Puis, ce qui a été vraiment surprenant, c'est qu'un des impacts, c'était qu'ils demandaient de ne pas participer du tout au cours d'éducation physique parce qu'ils rattachaient leur abus au sport. Donc, il y a plusieurs filles qui se sont vues accorder cette inaptitude sportive-là pour l'école pour des années. Mais le même cas pour les garçons, ben les garçons se faisaient refuser leur demande parce qu'on c'est comme si on jugeait que les garçons fallait qu'ils soient forts, qu'ils soient capables de passer à travers ça, puis les filles c'était correct qu'ils subissent des impacts plus psychologiques, pardon, mais les garçons on pouvait pas leur accorder ce droit-là, donc c'était vraiment impressionnant, mais c'est choquant de savoir ça.
Selon nous, une des solutions possibles pour venir contre les abus sexuels, ça serait qu'un organisme indépendant puisse gérer les plaintes d'abus. Donc, ici au Québec, on a l'organisme Sportaid qui vient justement gérer ça anonymement, sans que l'organisation, la fédération ou le groupe d'entraîneurs, la ville soient au courant, pour permettre que ce soit un processus juste qui ait lieu. Pour éviter les problèmes, justement, comme dans le documentaire sur la gymnastique américaine, alors que le problème a été dénoncé au président, mais le président a dit qu'il prenait en charge et n'a rien fait pour pas salir l'image de l'équipe américaine. Ou, plus récemment, on a pu voir que chez Hockey Canada, on a eu un problème qui était similaire, alors que huit garçons ont agresser une fille, donc un viol collectif. Et Hockey Canada a décidé de payer la fille pour garder son silence, sans cas de répercussions pour les garçons qui ont commis le geste. Et en fouillant à travers le dossier d'Hockey Canada, ils ont découvert qu'il y a beaucoup de cas qui ont été réglés comme ça, hors cours, avec des énormes sommes d'argent pour maintenir le silence. Et ça, depuis plusieurs années, là. Donc, c'est pour ça qu'on pense vraiment qu'un organisme indépendant peut vraiment amener les plaintes, amener à ce que les plaintes soient prises un peu plus au sérieux et qu'il y ait des actions concrètes qui soient posées par la suite.
En terminant, on voudrait vous inviter à rester vigilant, surtout remarquer les comportements de vos élèves ou de vos futurs élèves. Si les comportements changent ou s'ils montrent des traces d'abus, c'est important de rester vigilant et de bien observer pour pouvoir venir en aide si vous soupçonnez quelque chose. Puis aussi de continuer d'en parler, continuer de vous questionner, puis toujours faire partie de la solution pour diminuer le problème.
Merci de nous avoir écoutés.